Vous êtes l'héroïne de ce hors-série et vous avez fait paraître à l'Observatoire « Les algorithmes font-ils la loi ?» que je présente à nos amis téléspectateurs. Je vous présente Nadia Dame.
Bonsoir.
Évidemment, bonsoir Nadia. Et Claude Eskolovitch.
Bonsoir.
Cher Claude. Aurélie Jean, est-ce que vous pourriez expliquer à mon arrière-grand-mère qui est électronée ce qu'est un algorithme?
Bien sûr. Donc un algorithme, c'est littéralement un ensemble d'opérations à exécuter selon une certaine logique dans le but de répondre à une question et de résoudre un problème.
Mais Aurélie Jean, les algorithmes, c'est bien antérieur au numérique?
Ah oui,
déjà, votre ami mathématicien Euclide utilisait les algorithmes?
Exactement. C'est-à-dire que le raisonnement algorithmique date de l'époque d'Euclide, nos 3 siècles avant notre ère, avec son œuvre magistrale Les éléments. Mais le mot, en fait, vient du nom latinisé algorithmi, du nom latinisé du mathématicien perse Al-Khwarizmi, du 9e siècle de notre
ère. À l'origine de l'algèbre aussi.
Exactement, le mot algèbre vient de son nom aussi.
Avec nous donc Aurélie Jean pour évoquer ces révolutions qui se préparent, notamment le métavers. On a vu au début de la mise au point des images hallucinantes avec Mark Zuckerberg, mais exultant. Joyful. C'est ça ce qui nous attend, Aurélie Jean, un casque de réalité virtuelle sur la tête et on aura des avatars et on vivra, on rencontrera, on aimera, on consommera dans un monde virtuel.
Alors déjà, le métavers, la contraction de méta et univers, n'est pas un concept nouveau. Il faut le dire, et ce n'est pas un concept de Facebook, enfin de Meta, ce qui est anciennement Facebook.
C'est ça.
Ils ont aussi redonné un nouveau nom cette année à la société. Le métavers, en fait, est un univers qui existe depuis très longtemps, qui existe d'abord dans le milieu du divertissement, dans les jeux vidéo. Donc ça vient de là, ça a été beaucoup développé pour le jeu vidéo, mais aussi dans l'éducation, on en parle peu, mais par exemple tous les simulateurs d'éducation, par exemple les simulateurs de vol pour la formation des pilotes. Ah. Ou encore, c'est utilisé dans la santé, avec des casques, par exemple, pour le traitement de la douleur chez les enfants. Donc, il y a des choses qui sont testées, des choses qui existent. Le métavers de Facebook ou de Meta est encore des différences. C'est dans le domaine du divertissement, pas du jeu, mais du divertissement, où, par exemple, on va pouvoir jouer aux cartes, comme ici, il est présenté dans la petite vidéo, jouer aux cartes avec des amis qui sont aux quatre coins de la planète, mais dans un espace virtuel numérisé. La vraie question, en fait, c'est qu'est-ce que Meta, anciennement Facebook, va faire avec toutes les données comportementales qu'ils vont récolter à une échelle beaucoup plus fine que le simple fait d'aimer ou de partager un contenu sur Facebook. C'est surtout ça la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces informations?
Parce que pour vous, le sujet, ce n'est qu'une nouvelle ruse de Facebook pour nous pomper nos données, ce que nous sommes. J'ai une question pour vous. Vous avez été formé aux meilleures écoles. Vous êtes surdoué, comme M. Zuckerberg, peut-être autrement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de faire carrière dans les GAFA, où on peut s'épanouir, où on peut chercher, où on peut jongler avec les algorithmes?
Alors moi, j'ai travaillé pour un grand groupe. J'ai travaillé pour Bloomberg quand j'étais à New York, donc qui est le Google de la finance, en fait. Et en fait, moi, si j'en suis partie, c'est tout simplement parce que je voulais monter ma société et faire ce que j'avais envie de faire, reprendre la recherche, enseigner, enfin voilà, avoir des activités très diverses.
C'était pas un choix éthique, c'était pas un refus de ce que sont ces entités?
Non, pas forcément. Par contre, je sais qu'il y a des entreprises dans lesquelles je n'irai pas pour des raisons éthiques, de par leur absence de politique de diversité ou leur absence de pratiques.
Par exemple
Alors, ça a beaucoup changé, mais par exemple, moi, quand j'ai été embauchée à Bloomberg en 2015-2016, j'avais été aussi chassée par Amazon et à l'époque je n'aurais pas candidaté, alors que j'ai candidaté dans d'autres boîtes dans lesquelles j'ai été prise.
Pourquoi ?
Parce que Amazon n'avait pas de politique de diversité, ce qui pour moi était un problème en fait, ne reconnaissait pas. Voilà, depuis ils ont changé, mais vous voyez, c'est important aussi ce genre de choses.
À propos de Bloomberg, il paraît que votre patron, quand vous travailliez chez Bloomberg, est venu vous voir un jour en vous disant: est-ce qu'on pourrait imaginer que grâce à un algorithme, on va pouvoir mesurer les impacts d'un coup d'État sur les indices économiques d'un pays? Et vous lui avez répondu, non, je ne veux pas.
On a essayé parce qu'en fait...
Ah, vous avez quand même essayé.
Voilà, on a essayé parce que l'idée était bonne. L'idée était de dire, est-ce qu'un coup d'État, comme vous l'avez très bien dit, comment anticiper les effets sur l'évolution d'indices économiques de pays? Pour ça, mais comment capter un coup d'État? Et l'idée, c'était d'aller capter sur des réseaux comme Twitter des signaux faibles de mouvements de foule, d'échanges excessifs de manière accélérée d'un
pays. Comme ceux qui auraient précédé l'assaut sur le Capitole?
Par exemple.
Aux États-Unis,
donné
cette année.
Et en fait, on l'a fait, et ça a plutôt bien marché, mais ça n'a pas marché complètement. Et ça, par exemple, je ne me souviens plus du tout des pourcentages, mais ça n'a pas marché dans la majorité des cas. Enfin, même si ça marchait pour 80% des cas, il y avait 20% des cas où ça ne marchait pas. Je vous donne un exemple concret, et j'en parle dans mon premier livre. Il y a eu une fois, en fait, où pour un pays, je ne comprenais pas, il y avait un pic de commentaires de la part du peuple de ce pays envers son président, mais sans véritablement d'évolution de l'indice économique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas un coup d'État, je ne comprends pas. Au début, j'ai pensé que c'était un bug, une erreur. Et en fait, j'ai réalisé que c'était le jour de l'anniversaire du président et que la foule était exaltée voilà, de souhaiter l'anniversaire de leur président sur Twitter. Donc c'est intéressant, ça démontre en fait la force des algorithmes, puis ça démontre aussi parfois l'humilité que nous on doit avoir humain face aux données qu'on va récolter sur les scénarios, les comportements, les individus et ce qu'ils représentent. Et je vais même vous dire, même si votre outil fonctionne dans 95% des cas, eh bien 5% des cas où il ne fonctionne pas, il faut regarder si ces 5% peuvent faire du mal. Voilà.
Juste une question, Claude a évoqué de manière délicate le fait que vous ayez été diagnostiqué surdoué à l'âge de 6 ans, non, mais c'est une réalité. Ça a été un problème ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, je l'ai su très tard, en fait. C'est-à-dire que mes grands-parents m'ont complètement protégée, et c'est bien après, parce qu'en fait, j'ai refait un test à 33 ans, pour d'autres raisons, et j'en ai parlé à ma grand-mère, qui m'a dit, bah oui.
Le second a corroboré le premier.
Voilà, elle m'a dit, bah oui, bien sûr, à 6 ans, on t'avait testé, donc voilà.
Mais plus sérieusement, est-ce qu'il faut être, sinon surdoué, du moins très éduqué, très balèze, très fort pour appréhender le monde qui nous vient, ce que des êtres ordinaires ne peuvent pas tout simplement sentir démunis, alors que vous, vous avez l'air parfaitement calme.
Et électronné. Et électronné, alors, Claude, n'oubliez pas.
Ouais, je dirais différents points. Je pense qu'on peut expliquer les choses, même des choses compliquées, de manière simple, sans simplifier trop de façon pour éviter de déformer la réalité. Ouais. Et je peux vous assurer, Claude, il est possible d'expliquer un minimum comment les algorithmes fonctionnent. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, d'expliquer ce que c'est une donnée, d'expliquer ce que c'est le RGPD, le texte de protection des données à caractère personnel, d'expliquer vos droits, d'expliquer comment est construit un algorithme. Et c'est ce que je fais avec mes livres, ce que j'essaie de faire avec mes livres.
Et on peut ne pas avoir peur des GAFA.
Alors, il ne faut pas avoir peur des algorithmes. Il faut avoir peur des gens
qui éventuellement introduisent
les utilisent. Voilà. Mm. Parce que même un algorithme qui a été bien pensé et bien fait, il peut être mal utilisé. Donc c'est vraiment assez multi-échelle et multidimensionnel, en fait.
Ouais. Nadia, justement, on en parle avec vous.
Oui, parce que c'est un débat assez récurrent sur le plan éthique. Les algorithmes qui nous entourent, et vous le disiez, ils sont absolument partout. Ils sont assez souvent accusés de racisme ou de sexisme, ou les deux. L'un des problèmes les plus connus, ça repose sur la reconnaissance faciale, c'est-à-dire cette technologie qui permet de distinguer notamment un visage. Des cas de biais ethniques ont été prouvés, recensés, documentés aux États-Unis surtout. On peut citer par exemple cette chercheuse du MIT qui a réalisé qu'un logiciel ne détectait pas sa peau noire, mais qu'il réagissait presque immédiatement quand elle portait un masque blanc. Il y a le cas de l'algorithme qui va proposer des meilleurs crédits ou des meilleurs soins de santé aux blancs qu'aux noirs, et peut-être pire encore, des voitures autonomes qui esquivent mieux les piétons blancs que les piétons noirs. En quoi est-ce que c'est paresseux, c'est ce que vous dites, d'accuser directement les algorithmes de racisme ?
J'aime beaucoup le terme paresseux, parce que c'est exactement ça. C'est facile parce qu'en fait, c'est d'une part ne pas comprendre comment un algorithme est fait et est utilisé et comment il fonctionne, et surtout, ça ne résout pas le problème. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez accuser l'algorithme et après on dit « what's next ?» C'est ce qu'on fait après ça. Mmh. Et en fait, on ne fait pas grand-chose. Alors que si on essaie de comprendre d'où vient l'erreur et qui l'a introduite, et quand je dis qui, ce n'est pas une personne en particulier, c'est un ensemble de
personnes. Un système.
C'est beaucoup plus complexe, voilà. Et à la fin, d'essayer de le résoudre. Parce que si vous blâmez l'algorithme, vous ne trouverez pas de solution. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. Et dans ce cas-là précis, et c'est le sujet de mon livre, c'est que il ne faut pas être paresseux, pour reprendre votre terme, j'aime beaucoup, même côté du concepteur et du propriétaire de ces outils, pour pouvoir les développer correctement, pour pouvoir les tester correctement. Et là, c'est des choses qui auraient pu être évitées par des tests massifs, même une fois que l'algorithme est utilisé parfois par des dizaines de millions d'utilisateurs. C'est des choses qu'il faut imposer aujourd'hui par la loi.
Encore les acteurs... une question, je crois que vous déplorez, même si vous êtes parti aux États-Unis, maintenant vous vivez des deux côtés de l'Atlantique, et vous déplorez qu'il n'y ait pas de GAFA européens. Et on le déplore aussi, sans doute tous. Comment se fait-il ?
Les gens pensent que les GAFAM ont grandi seuls indépendamment de l'État américain. Mais en fait, l'État américain investit beaucoup d'argent. C'est des start-up qui viennent en fait du milieu de la recherche privée ou publique, donc de résultats de recherche qui sont translatés vers un cas industriel. Donc je pense que c'est une question de financement, les moyens qu'on met en place. C'est aussi une question de vision. C'est-à-dire, je ne veux pas passer pour la réac, parce que je ne suis pas réac, mais c'est vrai qu'on a eu des grands projets avec des gens comme Pompidou, De Gaulle, des grands projets visionnaires. On a mis de l'argent, des moyens. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose en fait après. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc il faut une vision, il faut une impulsion, et surtout à l'échelle européenne. Il ne faut pas penser France.
Je pensais que vous alliez dire aussi, et il faut que les filles s'y mettent.
Parce
que
bien sûr,
votre grand combat, les filles doivent coder.
Merci. Merci.
C'est ça ?
Il faut que les filles s'y mettent, parce que vous savez, on a besoin de talent. On a besoin de talent, et comme vous l'avez dit, on a besoin de talents divers, puisqu'on a besoin de faire des outils pour tout le monde, par tout le monde. Et donc oui, on a besoin de filles, et les filles, 50% de l'humanité, donc autant en profiter.
Non. Plus nous sommes connectés, plus nous sommes vulnérables.
Oui, parce qu'en fait, le vrai enjeu derrière ça, ce sont les données. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'objets connectés les uns avec les autres, ce qu'on appelle l'IoT qui a été défini ici. Donc on a de plus en plus d'informations. Ce qu'on va pirater, c'est les informations pour les récolter ou tout simplement avoir une rançon en échange.
Claude.
Il y a quelque chose de, pardonnez-moi, de terrifiant. Traditionnellement, les militaires nous protègent des ennemis, la police nous protège des bandits. Mais là, on a l'impression que dans le nouveau monde, notre sécurité nous revient et nous passons notre temps à être imprudents malgré nous. Est-ce qu'on peut nous rééduquer totalement sans nous rendre parano ?
Alors, je ne pense pas que vous, individuellement, vous soyez une cible. En général, ces individus ou ces organisations vont cibler des organisations, des chaînes de télé, des États, des organismes de santé, comme on l'a vu, pas mal de choses. Donc, ce n'est pas vous individuellement. Cela étant dit, vous devez avoir des bonnes pratiques d'usage de ces technologies pour ne pas se faire avoir, pour ne pas donner son mot de passe à n'importe qui, ne pas le donner tout simplement. Je pense que après.
Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Ou est-ce que c'est l'équivalent de ferme ta porte à double tour avant.
Je pense que c'est ça. Après, il ne faut pas. Par exemple, la défense. Travaille la cybersécurité au ministère de la Défense en France ou la Défense en général dans les pays, ils sont très très bons et ils travaillent beaucoup à rendre les systèmes encore plus sécurisés, à se protéger. Enfin, on ne pensait pas qu'il ne se passe rien, bien au contraire, quoi, vraiment.
Alors, la protection des données personnelles, RGPD, vous nous expliquez de quoi il s'agit ?
Bien sûr, donc c'est un texte de régulation des données à caractère personnel.
Et c'est une fierté, car c'est européen ?
Ah oui, c'est une fierté parce que ça marche et que ça a inspiré un texte américain, quand même. Oui. C'est une révolution parce qu'en fait, on a régulé, on a encadré, on a réussi à rentrer dans un paradigme qui est d'autoriser la collecte des données à caractère personnel tout en l'encadrant fermement. Et ça a inspiré le texte californien qui s'appelle le CCPA, pour California Consumer Privacy Act, qui est reconnu dans l'État de Californie et d'autres États aux États-Unis et qui va un jour.
Mais qu'est-ce que ça change concrètement à la vie de l'internaute européen ? Effectivement, on va recueillir notre consentement sur les cookies, mais qu'est-ce que ça change ?
Alors, le consentement, déjà, j'en parle, c'est hyper important parce qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire que vous reconnaissez que l'Union européenne est votre meilleur avocat. S'il y a un souci et que le consentement n'est pas bon, on va lui tomber dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça change ? Vous maîtrisez vos données à caractère personnel. Je vous donne un exemple. Oui. Les gens ne se rendent pas. Le droit à l'oubli, vous avez le droit de demander à effacer vos données. Et ça, c'est très important. Un autre point important, les gens ne n'y pensent pas, mais par exemple, avant ce qui compte aujourd'hui, c'est où la data est collectée, les données sont collectées. Je m'explique. Si vous êtes une entreprise américaine et que vous avez des utilisateurs en France et que vous collectez ces informations en France et que vous les stockez sur un serveur américain, peu importe que les informations soient sur le serveur américain, vous devez être conforme au RGPD parce que vous avez collecté les données sur le territoire européen. C'est un grand changement.
Voilà. Néanmoins, Aurélie Jean, que peuvent des citoyens face à des bouleversements comme l'ouverture à Shanghai, à la fin du mois de novembre dernier, donc il y a à peine un mois, un peu plus d'un mois, du Shanghai Data Exchange, autrement dit une bourse de données où on achète et où on vend. Les Américains ont fait des propositions pour que les citoyens dont les données s'échangent, et éventuellement fabriquent des bulles spéculatives, pour que ces citoyens soient rémunérés.
Alors, ça c'est interdit dans le RGPD. On ne peut pas vendre ces données, ce qui est différent du texte américain. Par contre, on peut profiter d'un service dont nos données alimentent le modèle économique. C'est le cas de tous les outils quasiment qu'on utilise, qu'on pense être gratuits.
Nos données enrichissent quelqu'un d'autre.
Voilà. Oui. Et en échange, on utilise un service gratuitement. Donc ça, c'est première chose. Donc on ne peut pas vendre ces données. Maintenant, je trouverais ça intéressant qu'on ait un débat sur ce sujet. Parce que je trouve ça intéressant, l'idée de se dire, est-ce qu'il serait possible. J'ai envie qu'il y ait un débat, il n'y en a pas. Voilà.
Un débat public.
Est-ce que légalement c'est possible ? Est-ce que
de monétiser nous-mêmes nos.
Voilà. Est-ce que c'est possible ?
Gagner de l'argent.
Et peut-être que c'est une mauvaise idée, mais en fait, il y a une absence de débat. On refuse d'en parler.
C'est un tabou ? C'est un tabou, les gens ?
Écoutez, je pense que c'est marrant parce que j'avais lu le livre de Gaspard Koenig, La fin de l'individu, où il en parle. Et justement, il explique que son analyse, c'était que les données étant une extension de notre corps, et que dû à notre passé judéo-chrétien, notre corps ne nous appartient pas complètement, et donc ça expliquerait le pourquoi du comment.
Vous avez tiqué lorsqu'un de nos intervenants disait d'une certaine façon les créateurs des algorithmes ont perdu le contrôle de leurs algorithmes.
Oui, parce qu'en fait, moi je fais très attention aux éléments de langage, surtout aujourd'hui. Et c'est vrai que de dire que les créateurs sont dépassés par leurs algorithmes, c'est être loin de la réalité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut ne pas comprendre une réponse algorithmique, on peut ne pas comprendre un comportement, mais cela ne nous dépasse pas. Je veux dire, on fait un pas en arrière, on analyse l'algorithme. Enfin, moi ça m'arrive très souvent. Il ne faut pas voir ça comme le Frankenstein de l'algorithme qui nous échapperait et qui serait hors contrôle. Parce que c'est faux, en fait.
Comment peut-on tenter de faire diminuer la haine en ligne ? Il y a notamment différentes techniques qui permettraient de ralentir les clics, la friction. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?